France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, des happenings en direct. Épisode 1, les risques du métier. La radio en direct, c'est comme un fil de soie. Avec patience, on le déroule jour après jour et la bobine est infinie. C'est une boucle de paroles, de musique, de génériques et d'interviews, chaque jour différente et chaque jour semblable, comme une chorégraphie rejouée encore et encore. Seulement voilà, parfois, le fil se casse.
Il se passe quelque chose que... Bah oui. Non, il ne se passera rien. Je vais vous le dire tout de suite, il ne se passera rien.
On fait partie d'un collectif anti-nucléaire. Oui. En fait, nous sommes...
Vous êtes les bienvenus dans ce studio. La porte est ouverte. Non, mademoiselle. Non, non, non. Non. À la fin de l'émission, s'il me reste du temps, je n'accepte pas. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Simplement, je fais confiance.
Nous étions jeunes quand la catastrophe de Tchernobyl.
Non, non, mademoiselle, on coupe le micro. On coupe, s'il vous plaît. On coupe tout. On coupe tout.
Voilà.
Je suis navré. Vous n'y arriverez pas comme ça. Il y a ici une seule personne qui décide, c'est moi. Maïté, tu peux voir avec eux si on peut reprendre.
On est là.
On est à l'antenne,
oui,
là oui. On a été à l'antenne tout le temps, là.
Ça a été resté un moment, l'antenne.
Est-ce qu'on a encore l'antenne en ce moment? Eh ben voilà, ben donc au moins tout le monde est témoin de ce qui vient de se passer dans ce studio. Je suis navré, hein, je suis navré auprès des auditeurs de France Inter, je suis navré auprès de ceux d'entre vous qui sont dans ce studio. C'est du direct.
Une émission peut être interrompue de multiples façons, comme ici en 2012, quand Stéphane Paoli avait vu débarquer en studio des militants antinucléaires. 3 ans plus tard, en 2015, Patrick Cohen allait avoir du mal à faire passer sa voix au-dessus du cœur des soignants qui voulaient se faire entendre.
Je vais m'adresser à eux. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je crois qu'on a entendu vos slogans. On a entendu vos slogans. Vous aurez tout à l'heure la parole, largement, pour un dialogue, pour exposer vos arguments. Christophe Prudhomme de la CGT Santé sera là à ce micro. C'est l'intersyndicale qui l'a désigné. Je pense que vraiment, vous ne gagnez rien à perturber cette émission qu'on espère faire le plus didactique et la plus posée possible. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Mais le fil de la radio peut être interrompu de multiples façons et à de multiples niveaux, parfois juste avant le direct, au moment d'envoyer un papier depuis l'étranger. Le journaliste Frédéric Barrère n'aurait jamais pensé qu'il serait un jour presque empêché d'envoyer son intervention par des policiers turcs intarissables, prompts à l'interrompre dès qu'il commencerait à parler.
Ok, c'est bon. Je vais y aller. Hein. Ils vont se taire. Ils ne se taisent pas. Voilà, il veut pas se taire. C'est un policier, on peut quand même pas lui donner des ordres. Ok. Thank you. Thank you. Okay. Ah, thank you very much.
Ah, la lampe électrique.
Voilà, on est en train de m'installer dans les toilettes. Les policiers sont en train de m'installer dans les toilettes. Ils m'éclairent. Ils sont vraiment adorables.
Il est aussi arrivé qu'un journaliste soit interrompu par une lumière qui s'éteint et qui l'empêche de lire son papier. Et oui, je vous promets que c'est arrivé, comme le prouve ce document retrouvé sur une étagère un peu honteuse de la salle des archives.
L'exemple du petit club de la Paillade Montpellier, pour sa part, on ne peut plus symptomatique et surtout significatif. Après, ah merde, maintenant il ferme la lumière. Putain, mais c'est pas vrai, hein, quel club de merde. Bon, ben attends, il n'y a plus de lumière. Connard.
Des happenings en direct. Une mini-série en 2 épisodes de Mathieu Garrigou-Lagrange. Réalisation Gilles Blanchard. Attaché de production, Lily Corner.
On a tous en tête des histoires d'émissions interrompues, de présentateurs pris à partie ou d'invités qui quittent le plateau de manière un peu précipitée. La plus célèbre des phrases prononcées dans ce contexte est sûrement celle-ci. « Messieurs les censeurs, bonsoir ». Elle a été larguée comme une bombe par l'écrivain et journaliste Maurice Clavel, c'était en 1971 à la télévision. Clavel entendait protester ainsi contre une coupe opérée dans son reportage, lequel venait justement d'être diffusé à l'antenne. La coupe concernait le président d'alors, Georges Pompidou, et il était question de son aversion supposée pour les résistants de l'intérieur, une polémique dont on saisit mal aujourd'hui quel en était l'enjeu. Mais la saillie de Clavel, elle, est restée célèbre.
Messieurs les censeurs, bonsoir.
Christophe Deleu, vous êtes professeur au QEJ à l'Université de Strasbourg et auteur de documentaires radio et de fictions audio. Qu'est-ce qui se joue, selon vous, quand une émission de radio ou de télévision est, comme cela, interrompue brutalement ?
Pour moi, c'est un peu comme si, en fait, on entrevoyait les coulisses d'un théâtre, en fait, dans ces moments-là. C'est-à-dire que c'est comme si on passait de l'autre côté de l'écran. Moi, j'ai beaucoup pensé au film de Woody Allen, La Rose pourpre du Caire, où là, tout d'un coup, c'est comme si on pénétrait donc dans les coulisses. On voit les coutures, en quelque sorte, de comment on fait de la radio. Donc, c'est anormal. Je pense qu'on reviendra sur les interruptions de type politique, mais là, pour rester sur les archives qui relèvent davantage, pour moi, de ce qu'on appelle les bêtisiers, c'est-à-dire des journalistes qui n'arrivent pas à travailler. Et en fait, souvent, le bêtisier, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rire. Il fait rire. En fait, là, je pense que vous avez souri, et moi aussi, parce que tout d'un coup, on voit un professionnel qui cesse d'être un professionnel. Il redevient en quelque sorte un être humain auquel on peut s'identifier. Alors, il peut être en plein désarroi, il peut être en colère, comme on l'a entendu, il peut faire de l'humour. Ça peut être des choses aussi parfois plus insolites. Moi, je me souviens avoir entendu un programme de FIP, par exemple. Donc, FIP, c'est de la musique quand même, essentiellement, mais de temps en temps, il y a les animatrices qui parlent. Et là, son micro, en fait, était resté ouvert pendant la diffusion de la musique. Et pendant la musique, en fait, elle passait un coup de téléphone à quelqu'un. Et on apprenait, en fait, tout un pan de sa vie. Elle ne savait pas qu'elle était à l'antenne.
Est-ce que vous, en tant qu'auditeur, vous ressentez un certain plaisir, peut-être un petit peu sadique, d'ailleurs, quand il y a comme ça des problèmes, des émissions interrompues ?
Et je pense que oui, une partie inconsciente dans notre écoute d'auditeur, c'est tout d'un coup, tiens, et s'il se passait justement autre chose ? On est d'une certaine manière, oui, tout d'un coup, captivé dès l'instant où c'est pas le programme habituel. Alors souvent, il faut quand même bien le dire, c'est pas grave. Mais il y a des fois où l'incident peut être un peu plus grave. Et là, c'est vrai qu'on sourit un peu moins. Je pense par exemple à une fiction qui a été écrite par Gabriel Germinet en 1934, qui s'appelle Great Guignol, où en fait on croit qu'on entend une vraie pièce de théâtre se jouer, et tout d'un coup on entend un coup de revolver. Alors on se demande forcément ce qui a pu se passer. Et là, le journaliste reprend l'antenne pour annoncer qu'un des comédiens s'est suicidé en direct pendant la pièce. Et donc, il commente la scène comme s'il était dans un radio-reportage classique. Alors, heureusement, ça, c'est de la fiction. Et je pense pas que ça arrive réellement, ni que c'est jamais arrivé, en tout cas en France. Néanmoins, ça montre bien que voilà, on peut passer tout d'un coup du sourire à quelque chose de beaucoup plus tragique.
Interrompre une émission de radio ou de télévision, c'est peut-être aussi monter sur scène et d'une certaine façon dire que l'on existe. Aujourd'hui, la télé-réalité permet aux candidats qui réussissent les castings de connaître une certaine célébrité, parfois pour un quart d'heure, d'autres fois pour toute une vie. Ils peuvent de cette façon accéder à l'antenne. Pour cette raison peut-être, les happenings à la radio et à la télévision sont moins fréquents qu'ils ne l'ont été, car la parole semble a priori plus facile à prendre. Il faut dire aussi que les canaux de communication se sont multipliés. Chacun a accès à une caméra et peut poster son avis sans filtre sur les réseaux sociaux avec l'espoir d'être entendu. Cela ne garantit pas la célébrité à tous les coups, loin de là, mais chacun au moins peut tenter sa chance sans même avoir à quitter sa chambre. Cette possibilité évidemment n'existait pas encore quand le 15 avril 1992, un jeune homme a fait irruption sur le plateau de Bouillon de Culture, émission culturelle d'Antenne 2, animée par Bernard Pivot.
Je me tourne vers le professeur.
D'abord parler de moi et de mes études. Je suis étudiant, je viens parler du mouvement étudiant, puisque la télévision n'a pas eu...
Je suis désolé, mais excusez-moi, mais c'est pas très poli d'interrompre.
Je suis désolé aussi.
C'est pas très poli
Désolé aussi, parce que la télévision n'a pas invité un étudiant pour parler du problème étudiant. Je suis venu parler du problème étudiant. Dans une démocratie, un citoyen étudiant a le droit de parler de son problème.
Oui.
Vous comprenez ? Je suis désolé.
Bon, alors écoutez, allez-y, parlez. Donne 2 minutes, parlez 2 minutes.
Non,
et puis...
je vais dire ce que j'ai à dire. Si vous l'aviez fait dans une émission avant...
Mais écoutez, moi je ne suis pas responsable de la direction
de
la télévision.
Mais je suis venu dans un des rares intervalles où un individu peut s'exprimer en direct.
Oui.
Je suis vraiment désolé d'interrompre votre émission.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire ?
Alors je vais dire ce que j'ai à dire sur les histoires étudiantes.
Non, mais quelles histoires étudiantes ?
Vous ne savez pas qu'il y a un projet Jospin ?
Ah ben oui, mais il y a des projets de ministre de l'Éducation nationale, il y en a plein tout le temps.
Oui, mais on n'en parle pas, la télévision, on attend qu'il y ait des vitrines cassées, qu'il y ait de la bagarre, qu'il y ait un mort, un petit Malik Oussekine, et là, tout d'un coup, ça intéresse, parce qu'il y a du sang qui a coulé, vous comprenez ?
Oui.
Mais autrement, l'éducation à la télévision, on s'en tape.
Puisqu'on n'a pas l'image, je me permets de préciser que le hacker tient dans sa main un long couteau et que tout en parlant, il le fait jouer sous sa gorge en signe d'avertissement.
Il n'y a jamais une explication correcte et cohérente à la télévision. Vous n'expliquez jamais aucun problème.
Mais il ne peut pas y en avoir une maintenant.
Vous êtes incapable d'aligner une explication parce que vous prenez les gens pour des cons, parce qu'ils ne sont pas capables de suivre un raisonnement plus de 3 minutes. Vous dites ces gens-là, ce sont des débiles. Si on leur fout plus de 3 minutes, ils vont changer de chaîne. Moi, je crois, j'ai confiance dans les gens.
Bon, écoutez, merci, soyez gentils maintenant, on va... et de repartir, voilà.
Ok, tenez, un cadeau.
Merci.
Ça, pour moi, c'est un incident que je rangerais dans la catégorie en fait des incidents de nature politique. Que ce soit le cas de Stéphane Paoli ou celui de Bernard Pivot. Dans les deux cas, en fait, les manifestants contestent une sorte d'ordre établi en s'opposant finalement aux représentants, puisque Stéphane Paoli et Bernard Pivot sont les garants, en quelque sorte, de l'ordre établi. Les deux extraits, quand même, viennent dire quoi ? Ben, tout simplement, vous devez respecter quand même les règles. Vous devez respecter la norme. Et si on ne vous a pas invité, vous ne pouvez pas parler. C'est ça qu'en fait, tous les deux rappellent. Et dans tous les cas, en fait, je dirais qu'il y a une peur, en fait, quand même, des professionnels de la radio et de la télévision, surtout quand ils sont en direct. C'est la peur, comme ça, de voir un moment ou un autre surgir quelqu'un qui va mettre, finalement, en péril toute cette organisation qui a été mise en place.
Alors, qu'est-ce que vous pensez, Christophe Deleu, de la réaction ici de Bernard Pivot dans cette séquence qui dure en entier environ 6 minutes, que la chaîne a laissé se dérouler à l'antenne? On lui a reproché à Bernard Pivot, au fond, de ne pas avoir rendu l'antenne. Ensuite, dans des articles qui sont parus dans la presse, lui s'est justifié en disant qu'il ne fallait pas céder à ce genre de personnage. Qu'est-ce que vous pensez de sa réaction ?
Moi, je trouve cette réaction assez extraordinaire, parce que on voit quand même quelqu'un qui garde son sang-froid. Il faut quand même aussi rappeler, puisqu'on n'a pas l'image, que Bernard Pivot n'est pas seul. Il y a plusieurs écrivains autour de lui, dont la sécurité est menacée. Et je ne parle même pas de tous les gens qui sont en coulisses. Je pense qu'il y a du public aussi. Donc, il y a quand même Bernard Pivot en face de lui, quelqu'un dont la réaction est imprévisible. Bernard Pivot ne peut pas savoir ce que va faire ce jeune homme. Donc moi, je trouve ça incroyable. On observe d'ailleurs la gestuelle de Bernard Pivot. Son corps bouge à peine. Il reste le Bernard Pivot qui présente n'importe quelle émission de télévision. Il garde sa bonhomie. Il y a même un détail assez presque drôle. C'est qu'à un moment donné, le manifestant met en question d'autres animateurs et Bernard Pivot l'interrompt en lui disant « Ah non, s'il vous plaît, quand même, ça c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire du mal des confrères comme ça devant moi. » Ce qui est une forme d'humour aussi, enfin je trouve que voilà. Donc moi je trouve plutôt qu'il essaie de parlementer, il essaie vraiment de faire en sorte que ce fait divers, car c'est un fait divers, ne dégénère pas.
Alors vous dites qu'il était sympathique avec ses confrères journalistes, ça n'a pas été le cas des journalistes de Libération qui ont dit suite à cette émission, pour la première fois de son histoire, quelque chose a effectivement bouillonné à Bouillon de Culture.
Oui, je pense que c'est un peu injuste. Ça, c'est bon, c'est des petites blagues entre confrères, mais il se passait souvent des choses très étonnantes sur le plateau de Bernard Pivot.
La plupart de ces émissions interrompues ne le sont pas par des personnes seules, mais par des collectifs porteurs de revendications. Bien souvent, leur message n'a rien à voir avec le sujet de l'émission. C'est le cas avec ce Bouillon de Culture. L'étudiant ne voulait pas faire connaître son premier roman ou défendre un film qu'il avait aimé, mais disait vouloir parler de la condition étudiante. C'était, souvenez-vous, la même chose avec la matinale de Stéphane Paoli. Les militants venaient parler du nucléaire dans une émission pourtant consacrée à la mafia. En revanche, dans le cas des soignants qu'on a entendu dans la matinale de Patrick Cohen, l'invité était Martin Hirsch, directeur des hôpitaux de Paris, et donc concerné au premier chef par leurs revendications. Dans l'archive que l'on va entendre à présent, c'est bien le sujet de l'émission qui est au cœur du happening.
Ici Monique Grégoire, qui vous dit bonjour à tous. Vous entendez la salle Pleyel remplie à craquer et qui fait beaucoup de bruit car nous venons d'avoir depuis une demi-heure une discussion absolument passionnée et passionnante sur l'homosexualité que nous allons continuer sur l'antenne.
Ce mercredi 10 mars 1971, l'animatrice d'RTL Ménie Grégoire a organisé un débat sur la question de l'homosexualité. Elle a invité notamment un prêtre et un psy qui décrivent l'homosexualité comme une maladie que l'on pourrait guérir. Ménie Grégoire, elle, pleine de commisération, considère qu'il est bien triste d'être homosexuel, notamment parce que cela revient à aller contre la vie, dit-elle. Autrement dit, contre le fait d'avoir des enfants. Au passage, on note que, bien des années plus tard, ce sera plutôt le fait que les gays et les lesbiennes puissent avoir des enfants qui allait poser problème aux tenants de la famille traditionnelle, pas le fait qu'ils aillent contre la vie en ne se reproduisant pas, comme quoi les arguments changent. Tout à coup, au milieu de l'émission, des membres du FAR, le Front homosexuel d'action révolutionnaire qui se trouve dans le public, tentent de prendre le pouvoir à l'antenne. On écoute l'archive, elle commence avec la voix d'André Baudry, militant de la cause gay, qui faisait partie des invités mais que le FAR ne cautionnait pas totalement.
Mais je voudrais surtout dire ceci. Je voudrais aussi bien le dire à ceux qui sont dans cette salle, qu'au paraît-il quelques 2 millions d'hommes et de femmes de France qui en ce moment écoutent cette émission à la radio chez eux. Mesdames, messieurs, autour de vous, au milieu de vous, dans votre famille, dans votre entourage professionnel, dans votre village, partout, il y a des homophiles que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir le préfet de votre département, il peut y avoir le curé de votre paroisse, il peut y avoir votre frère. Parfaitement.
Oh là là, écoutez, je suis un peu désolé du bruit de la salle qui ne nous permet pas de continuer. Vous voyez à quel point le débat est passionné, mais nous continuons quand même bravement. Vous avez parlé tout à l'heure d'un problème religieux. Je voudrais que le père Guinchat donne tout de même, réponde, on l'a presque mis en cause. Au fond, qu'est-ce que font les prêtres devant un homosexuel? Qu'est-ce que vous faites quand on vient vous trouver en vous disant « je suis homosexuel », qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous les rassurez aussi? Vous voulez répondre?
Je suis un petit peu gêné pour répondre à cette question. Comme prêtre, je fais partie d'une église et j'essaie d'être fidèle à un Dieu qui a donné un certain modèle de vie qui n'est pas imposé, mais pour être de la maison, il faut tout de même marcher dans le sens de ce modèle de vie. Après cela, il y a le fait concret. Je rejoins tout ce qui a été dit. Quand on a parlé de la souffrance de certaines situations, alors là aussi, moi j'accueille beaucoup d'homosexuels, mes confrères également, et qui viennent parler de leur souffrance. À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible.
Ne parlez plus de votre souffrance. Oui, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la poule a envahi la tribune et que des homosexuels...
Liberté ! Liberté !
Des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes...
Nous demandons la liberté !
Voilà, c'est comme ça que l'émission s'arrête. Christophe Deleu, qu'est-ce qu'elle dit, cette archive, pour vous ?
Pourquoi c'est toujours intéressant un incident à la radio, c'est que déjà en termes de son, c'est pas comme d'habitude. Là, on voit bien que ça dérape aussi d'un point de vue technique. La voix de Ménie Grégoire, tout d'un coup, apparaît elle-même perturbée. On sent que ça sature un peu. Comme tout à l'heure, on entendait Patrick Cohen qui perdait sa voix lors de la première archive. Il n'arrivait plus à parler. On sentait que ça déraillait, sa voix déraillait. Là, donc. Déjà, il y a Ménie Grégoire qui veut donc continuer son émission, mais qui n'y arrive pas. Alors, là, je dirais que c'est un tout petit peu différent comme type d'incident, puisque c'est tout. Enfin, il y a plusieurs incidents en même temps dans cet extrême. Et disons que il y a des personnes qui tiennent un discours qui n'est pas forcément le discours admis à un moment ou à un autre dans la société. Donc, c'est une autre sorte pour moi, de dérogation à la norme. On voit bien que là, le sujet de l'homosexualité donc fait question. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est le discours lui-même de Ménie Grégoire, en fait, hein, qui effectivement a un regard sur l'homosexualité qui pose question aujourd'hui.
C'est du prêtre aussi. Et du prêtre aussi qui dit « pour être de la maison, il faut marcher dans un certain sens ».
Voilà, c'est ça. Donc on sent bien que voilà, ça vient briser en fait l'ordre établi dans le sens où ça ne va pas forcément avec les opinions du moment.
Alors avec cette émission, la censure elle est très visible au fond puisque Ménie Grégoire finit par couper d'une façon très étrange d'ailleurs en termes de son justement l'émission et ça se passe 20 minutes avant la fin. Quel peut être l'effet sur les auditeurs d'une censure aussi claire ?
Eh bien, cette censure vient rappeler que la relation à la radio ou à la télé, elle est complètement asymétrique. Et ce qui va être amusant quand on est auditrice ou auditeur, c'est de voir comment, bien sûr, l'autre, c'est-à-dire l'autre, ça peut être l'invité, ça peut être l'auditeur à qui on a donné la parole, c'est comment l'autre va tenter de renverser, en fait, cette relation qui est une relation hiérarchique.
En même temps, on pourrait considérer que le présentateur ou la présentatrice, certes, a le pouvoir, mais peut être jugé aussi par les auditeurs, puisque la censure est visible. Et donc, c'est une façon, finalement, d'équilibrer ce pouvoir.
Oui, tout à fait. Il y a une émission que j'aimais beaucoup dans les années 1990 à France Inter, c'est Radio Comme C'est Vous, qui avait été, je crois, créée par Yvan Levaille. C'était une émission où les journalistes donc de la rédaction de France Inter devaient dialoguer avec les auditeurs et les auditrices pendant un quart d'heure, je crois. Et cette émission était détestée par de nombreux journalistes parce que c'était justement l'inattendu. Qu'allait-il se passer dans ce quart d'heure en direct où des auditrices et des auditeurs allaient poser des questions, allaient donner leur avis et ont demandé aux journalistes d'apporter des réponses, des éclairages, mais en direct. Et ça, donc, ça leur faisait peur. Et c'est vrai qu'il y a une émission assez amusante, une archive, alors, qui n'est pas très longue, mais l'histoire de cette archive est intéressante parce que il y a eu un attentat en 1996 et il y avait tout un débat sur la question des bombes de gaz qui avaient été utilisées pour cet attentat. Et les journalistes, pendant toute la matinée, donc, décrivent ce type de bombes de gaz qui a été utilisé. Et durant ce quart d'heure entre les journalistes et les auditeurs, il y a un auditeur qui va remettre en question tout ce qui a été dit durant la matinale. Alors, ça n'a l'air de rien, mais il se fait littéralement éjecter à l'antenne. Et Daniel Schneiderman avait fait une chronique dans Le Monde quelques jours après pour justement montrer comment ça se passait quand le pouvoir médiatique est remis en question et comment ça se passe quand le journaliste ne sait plus trop quoi faire, quand il ne sait pas quoi répondre.
Ici à France Culture, nous sommes nombreux à avoir vécu des happenings ou à en avoir été témoins, même s'il y en a de moins en moins, car l'usage des badges s'est multiplié ces dernières années et on ne peut plus atteindre si facilement les studios de la Maison de la Radio. Mais il arrive toujours aux journalistes des rédactions d'être pris à partie par des personnes dans la foule de façon plus ou moins amusante ou même plus ou moins agressive. Par chance, à la radio, il n'y a pas d'image et les journalistes de radio intéressent moins les interrupteurs, entre guillemets, que nos confrères de la télévision. Je me souviens malgré tout d'une émission en direct de Bordeaux, c'était le 26 septembre 2006 et je travaillais alors dans l'équipe du producteur et animateur Jean Lebrun. J'avais préparé une émission dont l'invité était le maire de la ville, Alain Juppé. L'émission avait lieu depuis le bar Le Palacium, cours Victor Hugo. Et je me rappelle que l'émission avait commencé par l'évocation d'un auditeur qui écrivait régulièrement à Jean Lebrun.
Avant d'accueillir Alain Juppé, bonjour monsieur le maire de Bordeaux.
Bonjour Jean Lebrun.
Je voulais dédier cette émission à un autre Alain. Si vous me le permettez, Alain Juppé, c'est un auditeur qui nous écoute quotidiennement avec son chat, lequel tient dans une main un cigare et l'autre un verre de Marie Brizard. C'est du moins ainsi qu'il décrit la scène quotidienne de l'audition de Travaux Publics. Et j'avais invité cet auditeur qui m'écrit à peu près une fois par semaine à un jour venir nous rejoindre. Et il m'a dit « Je ne peux répondre à votre invitation. Trop longtemps, j'ai frappé à trop de portes qu'on m'a fermées. Le silence et la solitude sont les seuls à m'avoir tendu la main et maintenant, le silence et la solitude sont intraitables. La voix du silence a encore beaucoup à m'apprendre avant que je puisse sortir enfin à la lumière sans griffer et griffer jusqu'au sang. » Alors, Alain Juppé, ici, on essaye tous les soirs d'instaurer une petite république de la parole et quand un jour, Alain, de Bordeaux, pas vous, sortira de son silence, peut-être le pari de cette émission en public sera-t-il gagné.
Et en effet, comme on l'entend dans cette archive et comme il l'avait indiqué finalement en choisissant comme titre de son émission « Travaux publics », eh bien Jean Lebrun cherchait à faire intervenir le plus possible le public, les personnes non autorisées, non habituées des médias, celles qui n'avaient pas la parole habituellement. Il pensait que tout le monde devait pouvoir s'exprimer sur France Culture et c'est pour cela qu'il faisait ses émissions en direct de bar, de façon itinérante, dans les villes et les campagnes de France, en tendant son micro. Évidemment, cette posture pouvait donner lieu à quelques dérapages, comme le fameux jour de l'émission avec Juppé, où des opposants au maire de Bordeaux avaient entamé l'international.
Est-ce qu'on peut faire
voyez, monsieur.
Est-ce qu'on peut faire un débat politique? On est habitué à parler sur fond d'international. Est-ce que, Alain Juppé, il nous reste peu de minutes. Est-ce qu'un des problèmes de la politique aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus faire de réformes et de révolutions avec des chansons, des chants qui sont peut-être dévalorisés?
Écoutez, monsieur Lebrun, je vous admire profondément, mais je ne suis pas en capacité de vous répondre. Il y a quelques années, tout ceci m'aurait un peu irrité. Aujourd'hui, ça me donne à penser sur l'état de notre pays et sur le fanatisme politique de certains. Je crois que la France, effectivement, souffre aujourd'hui d'un vrai problème. C'est cette espèce d'incompréhension.
Non, mais moi, je vous aurais volontiers donné la parole si vous ne vous étiez pas comporté ainsi.
Bon, écoutez, Écoutez, cher Jean Lebrun, j'ai pris beaucoup de plaisir à cette émission, c'était très intéressant, mais maintenant, on tombe dans un autre exercice.
Oui. Qui est vous répondez plutôt... juste à ma question.
Non, c'est moi qui réponds et qui dis ce que j'ai envie de répondre. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de répondre, parce que ça aussi c'est la liberté de chaque citoyen, c'est que ce genre de farce m'amuse, mais ne m'intéresse pas. Voilà, bon après-midi et bonne fin de soirée.
Eh bien, merci à vous Alain Juppé. On finit avec Robert Charlebois. Robert Charlebois qui chante « Je reviendrai ». À Montréal. Merci à tous et moins à quelques-uns. Et on se retrouve demain pour parler de la question noire au Portugal et en France. Et si certains n'ont pas pu poser de questions, c'est qu'ils ont chanté à la place. Et si l'émission est complaisante, elle va même tomber bientôt dans la compromission si je continue à vous donner la parole. Robert Charlebois. Cette lumière.
Alors là, Christophe Deleu, on est face à un cas d'école de revendication de la parole, parce qu'au fond, c'est un happening dans une émission dont le principe est précisément de donner la parole au public. Et donc, Jean Lebrun estime que, au fond, les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû, c'est-à-dire dans l'ordre, d'une certaine façon.
Oui, ça montre bien aussi que souvent, quand même, les incidents, les interruptions sont des grands moments de radio. Parce que je pense que, en fait, c'est ce qui marque d'emblée. On a l'impression que ça a été scénarisé, en fait, par quelqu'un, tellement il y a des rebondissements avec des personnages qu'on connaît, des guest stars, comme là, Alain Juppé, qui parle comme il ne parle pas d'habitude à la radio. Et on a aussi le sentiment que Jean Lebrun, il joue, en fait, avec cette perturbation. Je pense même à un moment dans l'archive, il dit finalement, ça commence à ressembler, je crois, à un conseil municipal à Bordeaux, une petite pique qu'il adresse à Alain Juppé. Donc, il y a un jeu. Et pour moi, il y a beaucoup plus de jeu, même si c'est vrai que Jean Lebrun condamne, in fine, les manifestantes et les manifestants. Il y a quand même je pense que c'est une archive extrêmement ambiguë. En tout cas, oui, comme souvent, ça tourne autour des questions de censure.
L'idée que les médias censurent est, à mon avis, assez partagée dans l'opinion. Des gilets jaunes aux militants altermondialistes, de l'extrême droite à l'extrême gauche, de Poutine à Donald Trump, tout le monde ou presque raconte partout qu'ils ou elles sont censurés. Et pourtant, on les entend largement sur les ondes dire justement qu'ils sont censurés, c'est bizarre. Avant qu'il n'accède au pouvoir, François Mitterrand n'était d'ailleurs pas le dernier à dénoncer la censure. Pour critiquer la mainmise giscardienne sur l'ORTF, le Parti Socialiste avait donc décidé de mettre sur pied une radio pirate intitulée Radio Riposte. Le 22 juin 1979, alors qu'une émission y est organisée sur le thème de la liberté, les autorités l'interrompent. D'abord par un brouillage, comme du temps de Radio Londres, et puis ensuite par une descente de police. Pas bégueule, l'ORTF, média d'État, s'en fait l'écho sans faux semblant dans le journal télévisé.
Bonsoir, ici Radio Riposte, la radio des socialistes de Paris.
19h, la radio clandestine des socialistes de Paris commence son émission dans les combles du 12 Cité Malesherbes, l'un des sièges du PS. François Mitterrand explique que pendant une heure, l'émission aura pour thème les libertés.
Une radio libre à partir de sa fédération de Paris. Parce que l'un des grands scandales que nous vivons chaque jour...
10 minutes plus tard, Radio Riposte est brouillée une première fois.
L'an est brouillé.
20h, l'émission est finie, les premiers policiers en civil essayent d'entrer.
Je ne veux arrêter personne, je veux simplement vérifier...
Vous n'avez pas de mandat, aucun mandat.
Monsieur le député, je n'ai pas besoin de mandat pour exécuter un flagrant délit.
Pendant plus d'une heure, les élus socialistes Laurent Fabius, Paul Quilès, Michel Charza et le sénateur Parmentier téléphonent qui à l'Assemblée, qui au Sénat et même à l'Élysée. Pendant ce temps, des renforts de police arrivent, des spécialistes commencent à défoncer la porte. Laurent Fabius s'indigne.
Casseur ! Casseur !
Je suis extrêmement choqué comme démocrate et profondément attaché aux libertés. C'est la première fois dans l'histoire, à ma connaissance, qu'un gouvernement donne l'ordre d'enfoncer les portes d'un parti politique.
Qu'est-ce que vous pensez, Christophe Deleu, de cette interruption par la police, cette fois, c'est-à-dire par l'État, au fond, d'une émission qui est une émission pirate ?
Oui, mais comme tout est polysémique, on peut se dire aussi que c'est un avertissement à ceux qui donc tenteraient de faire des radios pirates. Mais en tout cas, ça rappelle vraiment toute cette époque de lutte contre le monopole de la radio et de la télévision, en fait, qui a quand même duré entre 45 et 81, 82 même, pour être presque ton dire. Mais donc ça a été très très long, quoi, ce monopole. Il a toujours existé, hein, cette volonté en fait de contrôler a toujours existé. Dès le début de la radio, dans les années 20, jusqu'à la Première Guerre mondiale, le pouvoir politique tente de récupérer le pouvoir, même par rapport aux radios privées. Même avant la guerre, en fait, ce qu'on oublie parfois, c'est que les radios privées sont obligées de diffuser les informations de l'État, en fait. Il ne peut pas y avoir d'informations véritablement complètement libres. Vous voyez donc, on a entre les années 20 et le début des années 80, ça a toujours été quand même très très difficile. Et même depuis les lois de François Mitterrand sur la communication, la liberté de la communication, cette loi est ambiguë par nature, puisque de toute façon, elle, d'une certaine manière, elle proclame que la liberté audiovisuelle est acquise. Mais en même temps, n'importe quel citoyen ne peut pas créer une télévision, ni créer une radio et se mettre à diffuser. C'est soumis à autorisation de l'État. Donc ça introduit toujours de la suspicion. C'est-à-dire que même si, sans aucun doute, il n'y a plus des cas de censure comme il y a pu y avoir par exemple en mai 68, où vraiment là l'État empêchait les manifestants de se faire entendre à la radio, il y a toujours quand même, de la part des auditeurs, des auditrices et des téléspectateurs et téléspectatrices, cette idée que quand même quelqu'un peut intervenir à un moment ou à un autre pour censurer, pour ne pas tout dire. Ça restera présent en fait tant qu'on sera avec ce modèle-là.
Alors il y a quelque chose d'un peu amusant aussi, c'est qu'on entend Laurent Fabius, donc qui sera plus tard à la fois Premier ministre et puis aussi président du Conseil constitutionnel, donc garant au fond de la loi, qui participe à une action illégale. Donc on se rend bien compte qu'en fonction de l'endroit où on se trouve, du côté du Manche ou pas, on doit avoir évidemment de la censure une vision un petit peu différente.
Oui, puis c'est, on voit bien, enfin, en plus, le débat sur les radios libres, c'est vraiment un lien aussi avec notre sujet. Les radios libres, les radios pirates, pourquoi est-ce qu'elles ont été créées? C'est pour revendiquer un droit à l'expression, à la liberté de l'expression. C'était le combat numéro un. Ensuite, il y en a eu un deuxième qui était de parler de choses dont on ne parlait pas dans les médias, justement, publics. Mais quand même, il y a cette revendication de cette liberté-là.
Une émission interrompue, censurée ou hackée provoque donc toujours un moment de tension. On l'a vu en particulier avec l'exemple de Bouillon de Culture et ce jeune homme qui menaçait de se trancher la gorge en direct. Mais quand un terroriste déboule dans le studio d'RTL avec une grenade dégoupillée, là, c'est encore une autre histoire. C'est ce moment incroyable de radio que nous allons vous faire revivre au cours du second épisode.